Bonjour à tous. Alors c'est toujours un plaisir de partager la parole avec vous. Je tiens à remercier la RADA et plus particulièrement mon frère Edouard de m'avoir demandé de prêcher aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai choisi comme thème la sanctification. Nous avons déjà eu un aperçu avec Jean-François qui nous a lu Tite 2. Il nous a parlé des ronces, on va parler des ronces aussi. Est-ce que vous connaissez le film Jonathan Livingstone Segul? Je ne sais pas, c'est un film qui date de 1973. Alors, bon, il y en avait qui n'étaient pas nés, évidemment. Je vois déjà le sourire s'afficher. Merci, les gars. Moi, j'étais jeune à l'époque quand j'avais été le voir avec ma femme. Et nous avions été au cinéma. C'est un film qui raconte l'histoire d'un goéland. C'est une espèce de documentaire avec une musique magnifique de Neil Diamond. Et ce goéland regarde ses frères se chamailler, se battre dans un dépôt d'ordures, pour quelques restes de viande, de nourriture. Alors que lui, Jonathan Livingstone Segul, n'a qu'une seule idée en tête. Il désire s'envoler, planer dans les airs, en suspens entre ciel et terre, loin des mesquineries, loin de la petitesse de ses semblables. Ne trouvez-vous pas que parfois nous ressemblons à ces goélands, des petites mesquineries, des chamailleries, pour des restes, pour des détritus? Ne vivons-nous pas de manière médiocre alors que Dieu veut le meilleur pour nous? Souvent, pour nous justifier, pour nous rassurer, nous nous disons « nous ne sommes ni pires ni meilleurs que les autres ». Mais non, c'est vrai, nous ne sommes pas parfaits. Et ce film me fait penser à une phrase du poète Louis Aragon, une seule petite phrase, mais quelle phrase ? « Est-ce ainsi que les hommes vivent ?» Ne vous est-il jamais arrivé de vous poser cette question ? Lorsque nous voyons vivre nos semblables, et je suppose que vous êtes comme moi, il nous arrive parfois de nous poser des questions. Et il en est une qui me revient régulièrement en tête, est-ce ainsi que les hommes vivent? Et par extension, je me suis posé cette question, est-ce ainsi que les chrétiens vivent? Aujourd'hui, je vais aborder un sujet épineux, un peu dur, un sujet délicat, un sujet pas toujours bien compris, et ce sujet, c'est la sanctification. En d'autres mots, comment la Bible nous enseigne-t-elle à vivre? Alors sans plus attendre, je voudrais vous donner un début de définition. La sanctification, c'est l'action de se mettre à part pour Dieu, afin de devenir des vases d'honneur utiles dans sa maison. Se sanctifier est l'action de se séparer du péché, de ce qui est mauvais, de tout ce qui peut nous entraîner à faire le mal. En résumé, la sanctification, c'est prendre plaisir à dire et à faire ce qui plaît à Dieu. La sanctification, c'est ne faire aucun compromis avec les principes bibliques. La sanctification est une œuvre progressive. Elle rend le chrétien de plus en plus libre à l'égard du péché. Elle nous rend de plus en plus libres et de plus en plus semblables à Jésus-Christ. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il me semble important que nous comprenions bien quelle est la différence qu'il y a entre la justification et la sanctification. Parce qu'il faut prendre garde de ne pas mélanger les deux, de ne pas en tout cas les confondre. La justification, ça, c'est l'œuvre de Dieu. Romains chapitre 4, verset 3. « En effet, que dit l'Écriture ? Abraham a eu confiance en Dieu et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste. » Un deuxième verset, Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 9. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Ça, c'est la justification, ça, c'est l'œuvre de Dieu. Cette justification n'est ni gagnée, ni conservée par quelque effort, quel qu'il soit. La justification repose uniquement sur le sacrifice de Jésus à la croix. 1 Pierre, chapitre 2, verset 24, « Il a pris nos péchés sur lui et il les a portés dans son corps sur la croix, afin qu'étant morts pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, c'est par ces blessures que vous avez été guéris. Aucune œuvre, quelle qu'elle soit, n'est nécessaire pour obtenir la justification. » C'est un don gratuit que Dieu accorde. Un dernier verset en ce qui concerne la justification, Romains chapitre 6, verset 23, « Car le salaire que verse le péché, c'est la mort, mais le don gratuit que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. » Après ce long préambule, maintenant nous allons venir à notre sujet qui est la sanctification. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 7 dit ceci. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. La sanctification est un sujet épineux parce qu'il fait appel aux œuvres du chrétien. Mais là encore, tout comme pour la justification, c'est Dieu qui est à l'œuvre. Il est à l'œuvre par son esprit parce que c'est lui, et c'est lui seul, qui produit le vouloir et le faire. Philippiens, chapitre 2, verset 13, « Car c'est Dieu lui-même qui agit en nous pour produire le vouloir et le faire conformément à son projet plein d'amour. » La sanctification n'est pas instantanée car elle n'est pas l'œuvre de Dieu seul. Nous sommes activement engagés à nous soumettre à la volonté de Dieu, à résister au péché, à rechercher la sainteté et à nous efforcer d'être plus vertueux. Nous ne mesurons pas suffisamment l'importance de la sanctification. Pourtant, les textes des Écritures sont très clairs à ce sujet. La sanctification est citée parmi les choses que nous devons rechercher en priorité, car la sanctification est indispensable pour se tenir devant le Seigneur. Hébreux chapitre 12, verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Alors, il y a parfois dans la Bible des phrases qui sont difficiles à comprendre. Mais bon, ici, ce n'est pas le cas. Je crois qu'elle est très simple à comprendre, cette phrase. J'espère que pour nous, rechercher la paix avec tout le monde, c'est quelque chose d'acquis. Sans quoi, le reste du verset risque d'être encore plus difficilement accessible. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Alors, voir le Seigneur nous fait penser immédiatement à notre mort. Mais voir le Seigneur ne consiste pas uniquement à aller au ciel lorsque nous mourons. Voir le Seigneur, c'est aussi le voir maintenant, dans notre vie de tous les jours. Voir le Seigneur, c'est être en communion avec lui. Voir le Seigneur, c'est être exaucé lorsque nous prions. C'est vivre par le Saint-Esprit qui nous communique ses dons et qui produit en nous le fruit de l'Esprit. Je suppose que vous avez remarqué que je n'ai pas dit les fruits de l'Esprit, mais bien le fruit de l'Esprit. Mais qu'est-ce que c'est donc ce fruit que tout chrétien doit posséder? Alors moi, je n'ai pas encore eu l'occasion de vous lire Galates 5, 22. Et si j'ai encore une fois l'occasion de prêcher, peut-être que je vous reparlerai encore de Galates 5, 22. C'est un verset qui nous montre quelles sont les qualités que le chrétien doit avoir. Alors nous allons prendre notre Bible pour lire ensemble Galates 5, versets 22 à 23. Ces versets sont tellement importants que je vais vous les lire dans deux versions différentes. La première version que moi j'ai choisie, c'est la version second 21. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Voilà réunis dans un seul verset les 9 traits de caractère que doit posséder le chrétien. Nous ne devons pas faire notre shopping. Nous n'avons pas à choisir parmi ces traits de caractère. Le fruit de l'esprit, c'est un ensemble de choses que nous devons acquérir. En tant que chrétien, nous devons posséder toutes ces qualités. Maintenant, je vais vous lire le même passage, mais cette fois-ci dans la parole vivante d'Alfred Kuhn. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Jusque-là, c'est exactement la même chose que ce que nous avons lu. C'est le bon caractère, l'amabilité, la serviabilité, la bonté, la générosité, la fidélité, la confiance dans les autres, la douceur, la modestie, l'humilité, l'attitude à céder et s'adapter, la tempérance, la chasteté, la maîtrise de soi. La loi n'a même pas besoin d'intervenir contre ceux qui vivent ainsi. L'apôtre Paul écrit aux disciples de Thessalonique et insiste sur la volonté de Dieu concernant la sanctification. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 2 à 8. « Car vous connaissez tous les instructions que nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Que vous vous absteniez de toute immoralité. Que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps pour vivre dans la sainteté et l'honneur, sans se laisser dominer par des passions déréglées, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Qu'ainsi, et cette phrase est importante, qu'ainsi personne ne cause du tort à son frère. Qu'ainsi personne ne cause du tort à son frère dans ce domaine, en portant atteinte à ses droits. Dieu, en effet, fait justice de toute faute de ce genre. Nous vous l'avons dit et nous vous en avons averti. Car Dieu ne nous a pas adonnés à des pratiques dégradantes, mais à vivre d'une manière sainte. Celui donc qui rejette cet enseignement ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous donne son Esprit Saint. Alors moi, ce qui me saute aux yeux, c'est que c'est un appel. Dieu nous appelle. Il nous appelle à vivre d'une manière sainte. Dieu veut que nous nous abstenions de toute immoralité, ne pas se laisser dominer par des passions déréglées. Le but de la sanctification, c'est de nous purifier, de nous rendre sans tache, afin que nous puissions nous rapprocher du trône de Dieu. Nous lisons dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, versets 25 et 27, « Christ a aimé l'Église et il s'est livré lui-même pour elle. » On n'a pas appris la vie de Jésus. Jésus s'est livré lui-même pour elle. « Afin de la faire paraître devant lui, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Oui, la sanctification a une place importante dans la vie de chrétien. C'est d'ailleurs ce que nous voyons au travers de tous ces passages. La parole de Dieu nous appelle à sortir de notre ancienne vie. Elle nous appelle à vivre en nouveauté de vie. Ce que Dieu veut, c'est une église sainte, sans tache ni ride. Ce que Dieu veut, ce sont des chrétiens sanctifiés. Alors dans nos églises, on répète inlassablement que Dieu est amour. Et c'est vrai. Qu'il aime le pécheur. Et c'est également vrai. Ici en bas, il y a une bibliothèque. Et peut-être que chez vous aussi, vous avez une bibliothèque chrétienne. Eh bien, je veux bien parier avec vous que dans la bibliothèque, il y a plus de livres qui parlent de l'amour et de la grâce de Dieu que de la sanctification. Et lorsque la sanctification est enfin abordée, c'est vite fait, bien fait, au détour d'un paragraphe. Alors si effectivement Dieu est amour, il nous faut nous souvenir qu'il est aussi et surtout trois fois saint et qu'il hait l'iniquité. Il hait l'iniquité pour la simple et bonne raison qu'il a donné son Fils unique pour nous racheter de toute iniquité. Paul écrira dans sa lettre adressée à Tite au chapitre 2 verset 14, « Jésus s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. » Purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. La sanctification est importante pour une vie spirituelle équilibrée du chrétien. Cet enseignement est clairement exprimé dans la Bible et nous l'avons lu tout à l'heure dans l'Épître aux Thessaloniciens. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est ma sanctification. Les apôtres enseignaient la sanctification comme faisant partie des préceptes du Seigneur, selon ce qu'écrit l'apôtre Paul aux Thessaloniciens. Vous savez, et je l'ai lu tout à l'heure, vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais il rejette Dieu qui vous a donné son Esprit Saint. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 2 et 8. La sanctification, la sainteté de la vie chrétienne est la normalité pour tous ceux que Dieu a appelés ses enfants. Et je dis bien que la sanctification est la normalité. Elle ne doit pas être occasionnelle, de temps en temps, quand je le veux bien. L'apôtre Pierre nous invite à être obéissants aux préceptes du Seigneur. Nous lisons dans la première épître de Pierre, chapitre 1, versets 14 à 16, « Comme des enfants obéissants. » Ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois au temps de votre ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saint dans tout votre comportement, car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture. Soyez saint, car je suis saint. Ce verset nous apprend que la connaissance de Dieu va de pair avec la sanctification. En d'autres mots, plus nous connaissons Dieu, plus nous l'aimons et plus nous avons envie de nous sanctifier. Réfléchissons bien à cette parole de l'Écriture Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Ce verset a une plus grande portée que ce que nous croyons. Ne cherchons pas plus loin. La raison pour laquelle nous sommes privés de la présence de Dieu. Ne cherchons pas plus loin la raison pour laquelle nous sommes privés de la manifestation du Saint-Esprit. Nous sommes privés du témoignage d'une réelle communion avec Christ. Ne cherchons pas plus loin la raison pour laquelle nos prières ne sont pas exaucées. Comme il est écrit dans le livre du prophète Ésaïe, Ésaïe chapitre 59, versets 1 à 3, « Mais non, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, et son oreille n'est pas sourde au point de ne plus vous entendre. Ce sont vos fautes. Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. C'est à cause de vos péchés qu'il s'est détourné loin de vous pour ne plus vous entendre. Dieu s'est éloigné de nous pour ne plus entendre nos prières. Car vos mains sont tachées de sang et vos doigts de péché. Vos lèvres disent des mensonges. Votre langue susurre des paroles perfides. » En tant que chrétiens, nous devons nous laisser interpeller par la parole de Dieu qui nous dit aujourd'hui, maintenant, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et il est certain que si nous ne cherchons pas à nous sanctifier, et il est certain que si nous avons de la complaisance avec le péché, si notre souci de plaire à Dieu n'est pas prioritaire, alors nous attristons bien le Saint-Esprit. Alors certainement, il y aura des cassures dans notre communion avec le Seigneur. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. C'est un avertissement que nous devons prendre très au sérieux. Surtout, comme je le suppose, nous avons tous envie de voir le Seigneur face à face. Le péché est constamment à notre porte, par nos pensées, par nos paroles, par nos mauvaises actions, par nos mauvaises œuvres. Et nous devons constamment lui faire la guerre. Mais tout ça a l'air bien triste, mais j'ai quand même une bonne nouvelle à vous annoncer. Nous obtiendrons la victoire. Nous obtiendrons la victoire. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 57. « Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors nous devons bien le reconnaître. Nous sommes trop faibles pour aller seuls au combat. Et c'est pour cette raison que Dieu nous accompagnera et combattra le péché à nos côtés. Unissons-nous à la puissance de Dieu et Dieu nous donnera la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Sanctifiez-vous. C'est un ordre, c'est un impératif. C'est l'impératif de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 17 à 18. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. « Séparez-vous d'eux, dit le Seigneur, n'ayez pas de contact avec ce qui est impur, alors je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur le Tout-Puissant. » Ne trouvez-vous pas que c'est une bien belle promesse? Elle est pour nous qui sommes les bien-aimés de Dieu. Ce que nous venons de lire est un commandement, c'est un commandement, suivi d'une grande promesse, une relation bénie entre Dieu, notre Père et nous qui sommes ses enfants. Je serai pour vous un Père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur le Tout-Puissant. En conséquence de quoi, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Se sanctifier est la tâche qui nous incombe. C'est notre responsabilité. Cela demande des efforts. Cela demande une démarche personnelle. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne serons pas seuls, parce que Dieu est avec nous. Il combat à nos côtés. Si, comme nous le pensons, la sanctification, c'est la volonté de Dieu, pensez-vous, un seul instant, que Dieu va nous laisser seuls dans ce combat? Mais non. Dieu va nous accompagner pour combattre le péché. Soyez saints. Quelle injonction! Dieu dit, vous serez saints car je suis saint. L'apôtre Pierre insiste sur la nécessité d'être saint. Mais, et moi j'aime bien ce mot, et Paolo, lors d'un G30, nous avait fait la remarque, il a dit que lui aussi, il était interpellé par ce mot. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saint dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saint, car je suis saint. 1 Pierre, chapitre 1, verset 15. Le but de la sanctification, c'est d'être rendu semblable à l'image de Jésus-Christ. C'est lorsque nous sommes confrontés à la sainteté de Dieu. C'est lorsque nous prenons conscience de notre situation que nous avons un profond désir, une profonde envie de nous sanctifier. N'ayons pas peur de nous voir tels que nous sommes. Arrêtons de nous mentir. N'ayons pas peur de nous voir tels que nous sommes. Seigneur, tu vois ? Tu vois le chrétien que je suis ? Je me fais parfois pitié moi-même. Presque 50 ans de vie chrétienne et je n'ai toujours pas obtenu la victoire sur le péché. Seigneur, je t'en prie, je t'en supplie, viens à mon secours. La révélation de la sainteté de Dieu devrait produire en nous une profonde humilité et aussi un profond désir de vivre différemment. Et c'est ce désir profond qui devrait nous amener à rechercher la sanctification, à rechercher le moyen de devenir saint comme le Seigneur est saint. Mais vous savez quoi ? Nous ne lisons pas assez les Écritures. Nous ne prenons pas assez de temps pour nous arrêter quelques minutes sur des versets tels que ceux que je voudrais vous lire maintenant. Moi, je désire partager avec vous un texte de l'apôtre Pierre. 1 Pierre, chapitre 3, versets 8 à 12. Ce chapitre est intitulé « Le secret du bonheur ». Alors, je vais vous lire ce passage dans la version parole vivante d'Alfred Kuhn. J'aurais tendance à dire « Ne prenez pas le passage », mais je vous entends déjà feuilleter. Alors, écoutons ce que le Seigneur a à nous dire. « Enfin, entre vous tous, cultivez l'unité de cœur et d'esprit. » Lorsque Pierre écrit ce passage, les tracteurs n'existaient pas. Et le cultivateur cultivait comme il pouvait, à la houe, avec une bêche, peut-être à l'aide d'une paire de bœufs et un socle. Mais croyez-moi, cultiver, c'était très dur. Ça demandait des efforts. Enfin, entre vous tous, cultivez l'unité de cœur et d'esprit. Visez le même but. Visez le même but. Et cette phrase m'a fait penser à un gag de Gaston Lagaffe, où l'on voit Gaston et Mademoiselle Jeanne. Gaston a trafiqué sa voiture et il a mis deux volants. Et alors il démarre, tout va très bien, c'est une ligne droite, tout va très bien. Mais au premier carrefour, Gaston va à gauche et Mademoiselle Jeanne va à droite. Vous imaginez l'état de la voiture. Viser le même but. Qu'une bonne entente règne parmi vous. Aimez-vous comme des frères. Témoignez concrètement votre compassion à ceux qui passent par une difficulté. Soyez généreux et courtois, modestes et humbles. Ne rendez à personne le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. Répondez plutôt en demandant à Dieu de bénir ceux qui vous offensent. Alors à ce sujet, et j'ai demandé la permission à Michel, si je pouvais en parler, nous avons dans notre assemblée quelqu'un dont l'exemple doit être suivi à tout prix. Et c'est notre frère Julien. Julien a un chien et il le promène souvent dans le Ravel, qui est pas loin de chez lui. Et régulièrement, il rencontre un homme qui l'injurie. Cet homme lui dit « Ta mère aurait mieux fait de te noyer à la naissance. » Et encore beaucoup de choses semblables. Mais vous savez ce que Julien lui dit ? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alors je vais reprendre le passage, parce que vous allez l'entendre d'une manière tout à fait différente. Ne rendez à personne le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. Répondez plutôt en demandant à Dieu de bénir celui qui vous offense. Julien l'a bien compris. Mais non seulement il l'a compris, mais il le met en pratique. Le verset continue en disant ceci, « N'est-ce pas à cela que vous avez été appelés ? N'est-ce pas à cela que nous avons été appelés ? Appelés à bénir les autres et non à les maudire, c'est-à-dire à dire du mal d'eux. » Nous avons été appelés à bénir ceux qui nous font du mal, ceux qui ont été injustes avec nous, afin, nous dit l'apôtre Pierre, afin d'hériter vous-même un jour la bénédiction divine. Si nous bénissons les autres, et surtout nos ennemis, hein, parce que c'est facile de bénir ceux qu'on aime, hein, mais si nous bénissons les autres, surtout ceux qui nous font du mal, eh bien Dieu nous bénira en retour. Verset 10. « Celui qui veut jouir de la vie et connaître des jours heureux doit réfréner sa langue et se garder de dire du mal et cesser de tromper par ses paroles. Qu'il fuit tout ce qui est mal et fasse le bien. Qu'il recherche la paix avec tout le monde et lui reste profondément attaché. Car le Seigneur suit les justes des yeux et il tend l'oreille. » Il tend l'oreille lorsqu'il prie, mais il se détourne contre ceux qui font le mal. Si nous voulons vivre une vie de sanctification, il faudra tôt ou tard nous séparer de certaines relations, de certains amis, hein, qui ne sont pas de bonne compagnie. Car l'Écriture nous avertit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mes amis, nous ne lisons pas assez notre Bible. Et nous ne la mettons pas en pratique. Nous ne mettons pas en pratique ce que nous lisons. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi de ne pas mettre ta parole en pratique. Et concernant nos fréquentations, nous ne prêtons pas suffisamment attention à des avertissements tels que celui qui est adressé par l'apôtre Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 11. Je voulais simplement, mais tout simplement, je voulais simplement vous dire de ne pas entretenir de relation avec celui qui, tout en se disant votre frère, vivrait dans l'immoralité, aimerait trop l'argent, vénérerait les idoles ou serait un calomniateur, un homme adonné à la boisson ou enclin aux affaires malhonnêtes. Avec des gens de cette sorte, ils vous font rompre toute communion et ne pas même prendre de repas ensemble. Nous devons bien nous rendre compte que notre sanctification ne se fera pas d'un coup de baguette magique. Hein, tout d'un coup comme ça, hop, je suis saint, comme l'Éternel est saint, certainement pas. Hein. Pour atteindre la sanctification, il y a des échelons à gravir, l'un après l'autre. Et ces échelons eh bien, sont énumérés par l'apôtre Pierre. 2 Pierre, chapitre 1, versets 5 à 10. 2 Pierre, chapitre 1, versets 5 à 10. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale. À la qualité morale, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Se sanctifier, c'est donc l'action de se séparer, de s'éloigner du mal, de se mettre à part dans le but de plaire à Dieu. 2 Timothée, chapitre 2, verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre pour toute bonne œuvre. Dieu nous demande d'être pur en vue de lui être agréable, de lui être utile, en vue de faire des bonnes œuvres. Alors rapidement, avant de terminer, un jour j'ai lu ceci. L'obéissance aide à grandir. Enseigner l'obéissance à son enfant, c'est lui apprendre que dans la vie, il est nécessaire de faire un certain nombre de choses afin de grandir. L'obéissance aide à grandir. Voulons-nous grandir? Si oui, alors nous devons bien apprendre à obéir à la parole de Dieu. Mais peut-être avons-nous trop d'affinité avec le péché. Peut-être avons-nous encore trop d'affinité avec un tout petit péché mignon, hein, qui nous tient tant à cœur. C'est mon péché mignon. Vous avez déjà certainement entendu cette phrase. Eh bien, à ce sujet, lors d'une prédication, un frère a illustré ce qu'est le péché mignon. Ce péché mignon que nous voulons tant garder et qui nous empêche d'atteindre la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Le péché mignon, nous dit-il, c'est comme une ronce. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les ronces, mais moi, je les connais bien. J'ai un assez grand terrain et je suis parfois envahi par les ronces. Et lorsque ma femme et moi, nous nous attaquons aux ronces, eh bien, ça pique. Et plus nous avançons dans les ronces, et plus les ronces nous retiennent. Eh bien, c'est comme le péché. Le péché, c'est la même chose. Plus nous avançons dans le péché, et plus le péché nous retient. C'est une ronce que nous voulons garder à tout prix. Parce que sur les ronces, il y a des murs. Alors, je ne sais pas si vous aimez les murs, mais moi, les murs, j'en suis friand. Et avec mes petits-enfants, je vais à la cueillette des murs, et je prends un petit seau de plage pour le remplir. Et lorsque je reviens de la cueillette, le seau est vide. Alors nous aimons, nous nous repaissons, nous en tirons une satisfaction intense. Les murs, ah là 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 là. Mais me direz-vous, c'est quoi les murs dont tu nous parles? Eh bien, les murs, ça peut être beaucoup de choses. Mais ça peut être, par exemple, la médisance. Proverbe, chapitre 26, verset 22, nous dit ceci. Les paroles du rapporteur, en d'autres mots, les médisances, sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au dedans des entrailles. Alors pourquoi est-ce que je vous parle des murs, sur les ronces, des friandises qui coulent comme du miel dans le fond de la gorge et qui descendent lentement et que l'on savoure? Eh bien, c'est parce que ce jeudi matin, j'ai reçu un SMS d'un frère. Il partageait une pensée qu'il avait eue alors qu'il n'arrivait pas à dormir. Ou alors peut-être partageait-il un message qu'il avait lui-même reçu. Ça, je ne le sais pas. Peut-être quelqu'un a-t-il reçu ce message. Mais je vais quand même vous le lire. Parce que je pense que ce message, qui date de jeudi donc, tombe bien à propos pour clôturer le partage de ce jour. Son SMS disait ceci. Alors que je ne trouvais pas le sommeil, je me suis mis à prier. Tout à coup, ma bouche fut fermée, il ne m'était plus possible de prier. Alors, par la force des choses, je gardais le silence. Une parole me vint à l'esprit, et elle produisit en moi une profonde tristesse. Une profonde tristesse au fond de mon cœur. Cette parole est la suivante. Les critiques tuent. Les critiques tuent la foi. Les critiques nous séparent de la présence de Dieu. L'apôtre Jacques, au chapitre 5, verset 9, nous interpelle par ces mots. « Frères, afin que vous ne soyez pas jugés, ne vous plaignez pas les uns des autres. Voici, le juge est à la porte. » Et puis j'entendis, « Combien de temps vous reste-t-il encore ?» Frères et sœurs, il y a autour de nous des ennemis de la foi qui ont pour but notre destruction. Galates, chapitre 5, verset 15, « Mais si vous agissez comme des bêtes sauvages, en vous mordant et en vous dévorant les uns les autres, alors prenez garde, vous finirez par vous détruire les uns les autres. » Et le message continue par ces mots, « Jésus revient bientôt, il prépare ses enfants vers une demeure éternelle. Bientôt, il sera trop tard. Bientôt, il sera trop tard. Abandonnons nos mauvaises œuvres au pied de la croix. Ne perdons plus notre temps dans des discours mauvais, mais rachetons le temps par la prière et par une consécration véritable. » Que ce message ne produise pas seulement de la tristesse dans ton cœur, mais de la joie de la repentance. Et ce frère termine par son SMS, par cette prière. « Je te demande pardon, Seigneur, pour mes critiques. À toi mon cœur, à toi mes lèvres. » Alors je remercie ce frère pour son SMS qui est tombé, me semble-t-il, bien à propos, alors que quelques heures plus tard, mon frère Édouard me demandait si je pouvais partager la parole avec vous aujourd'hui. Alors comme je ne crois pas au hasard, Je pense que le Seigneur a quelque chose à nous dire au travers de ce SMS. Voilà, mes amis, avant de nous quitter, je termine par ces mots adressés par l'apôtre Paul aux Corinthiens, et je l'ai lu tout à l'heure. 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 17 et 18, « C'est pourquoi. Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. » C'est un ordre. C'est un commandement. « N'ayez pas de contact avec ce qui est impur. Alors, je vous accueillerai. » Ça, c'est une promesse. « Je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur le Tout-Puissant. » Amen. Prions. Père éternel, merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes. Seigneur, dans le livre de Josué, tu nous enseignes cette parole. Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Seigneur, nous voulons voir des prodiges au milieu de nous. Nous voulons voir des prodiges dans notre communauté. Nous voulons voir des prodiges dans notre vie. Nous en avons assez de nous battre, tels les goélands. Nous en avons assez de nous battre pour des détritus. C'est pourquoi nous te demandons de nous accompagner dans le combat de la sanctification. Nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux, et de nous à mettre ton enseignement en pratique. Seigneur, par ton esprit, conduis-nous dans la voie de la sanctification. Oui, nous voulons prendre plaisir à dire et à faire ce qui te plaît. Oui, nous voulons ne faire aucun compromis avec ton enseignement. Merci Seigneur, parce que tu nous as mis à part en vue de bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Seigneur, mets-moi à cœur de porter le fruit de l'Esprit, qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Seigneur, nous voulons te voir à l'œuvre dans nos cœurs, te voir à l'œuvre dans notre vie de tous les jours. Bénis-nous, Seigneur, pendant toute cette semaine. Nous te prions, dans le nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.